Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
L'histoire se passe en Suède, dans la petite commune de Kurkult, pas très loin de Karlskrona, pour vous situer. Johanna Sandström est la mère de deux enfants, probablement blonds, une fille et un garçon, Kevin et Nora. En 2015, pour graver de manière indélébile l'amour qu'elle porte à sa progéniture, Johanna décide de faire tatouer leur prénom sur son avant-bras. Elle se rend chez le tatoueur local et lui indique son souhait. Il réalise les modèles et commence les tatouages. Une fois rentrée chez elle, son cœur s'arrête soudain, elle manque de s'évanouir, du moins c'est ce qu'elle raconte au quotidien régional Blekinge Landstidning, quand elle constate qu'un L s'est glissé malicieusement dans le prénom de son fils, qui ne s'appelle plus Kevin, mais Kelvin. Elle retourne de rechef chez le tatoueur, qui trouve ça plutôt drôle, et lui annonce qu'il n'y a rien à faire. Il ne lui propose qu'un remboursement et l'adresse d'une clinique à Växjö pour essayer de l'effacer. Renseignement pris, Johanna apprend que l'opération nécessite de nombreux traitements douloureux. Elle trouve alors une autre idée qui la séduit davantage. Changer le prénom de l'enfant plutôt que d'effacer le tatouage. L'administration civile suédoise, plutôt libérale, accepte l'histoire de bon cœur et rebaptise l'enfant Kelvin. Le petit Kelvin, lui, n'a que 2 ans, donc il aura tout le temps de s'habituer à son nouveau prénom. Et il saura quoi répondre quand on lui demandera son origine exotique. Tout de suite, plus sérieuse, intime et profonde, et sans faute d'orthographe, 3 autres histoires de tatouage racontées par des tatoueurs à Fabienne Lomonier.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Karl Marx, je suis d'origine américaine. Cela fait maintenant 21 ans que je fais du tatou professionnellement. Pour prendre contact avec moi, les gens d'abord, soit ils m'envoient un message ou ils me téléphonent et on convient à un rendez-vous pour se rencontrer. Et cette cliente, elle est arrivée. Déjà, j'étais surpris parce qu'elle était assez jeune. Elle avait 17 ans. Elle est venue, elle me disait « je veux des fleurs ». Vu que c'est son premier tatouage, je me suis dit « elle veut une petite fleur ». Mais non, en réalité, elle voulait faire quelque chose qui couvrait une bonne partie de son corps, qui passait sur le ventre, un petit peu autour des seins, qui allait vers le bas du dos. Quand il y a des gens qui me racontent beaucoup de choses, ça m'aide à voir ce qu'ils veulent. Elle, elle disait pas grand-chose. Elle me laissait aller faire ce que je voulais tant que je couvrais les endroits qu'elle voulait. On sentait que c'était un petit peu tendu et il fallait essayer de prendre ses idées et les mettre sur papier et sur sa peau. Il faut construire une confiance. Alors, on a discuté un petit peu. Après, on a pris des feutres pour dessiner ensemble. Et là, quand on commence à dessiner, il faut essayer de trouver les lignes qui suivent les muscles de la personne, quelque chose qui est à la fois beau et qui représente ce qu'elle veut mettre sur sa peau. Quand ils bougent, il faut que ça fait un partie d'eux. Il ne faut pas juste que ça soit posé sur eux, il faut que ça soit un partie d'eux, parce que ça va l'être pour toute leur vie après ça. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire avec le dessin, ces lierres et ces fleurs, pour que ça suivait les côtes, que ça allait un petit peu sur le ventre, que ça lui rendait belle. Et elle a dit, écoute, on essaye ça, on va plus loin. Après ça, je prends du papier calque. Le dessin, je le trace grossièrement sur le papier calque et je prends ça pour le raffiner et le représenter le jour du rendez-vous. Et moi, j'ai le temps de bien développer le dessin, de faire quelque chose de beau parce que les croquis sur la personne, c'est juste pour trouver une forme, c'est pas dans les détails. Donc, on s'est donné un rendez-vous quelques semaines ou un mois plus tard. Je nous donne une bonne plage de temps pour pouvoir présenter le dessin et être sûr que la personne l'aime. S'il faut, on le redessine, bien sûr. Quand elle est venue, je lui montre le dessin. Elle avait l'air un petit peu tendue, mais le dessin lui plaisait. Et on l'a essayé avec le carbone sur le corps. Ça laisse les traces principales. Comme ça, les gens peuvent imaginer, ils voient où c'est, ils voient comment ça bouge. Et on voit déjà qu'elle a un petit peu le sourire. Ça lui fait du bien de voir ça sur elle. Et elle a dit, ça j'aime bien, ça je pourrais le porter à vie, je pense. Après ça, elle s'allonge et on commence à tatouer. Je sens qu'elle est un petit peu crispée, que c'est pas très facile. Normalement, les gens, après une dizaine de minutes, ils arrivent à se détendre, travailler leur respiration, à se mettre dans l'ambiance. Souvent, on commence à discuter, ça aide les gens à se distraire. Mais elle, j'ai l'impression qu'elle a un peu de mal, mais elle fait des efforts. Quand on se crispe, on utilise énormément d'énergie. Et c'est pas possible de tenir 3 heures toutes crispées. Alors après 1h30, je sentais que ça, on n'allait pas aller plus loin. Donc on a pris un autre rendez-vous. Quand on commençait à faire le tatou, d'un côté, ça lui faisait un peu mal. Un tatou, ça fait mal quand même, c'est beaucoup de petites piqûres. Mais on sentait qu'elle se sentait mieux aussi. Un mois après, elle revient. Déjà, c'est un peu plus facile la deuxième fois, parce que on commence à se connaître. On continue à tatouer. Pendant qu'on finit les tracés, je suis très concentré, il faut que ça soit vraiment propre. Mais quand on fait le remplissage, c'est un petit peu plus comme de la peinture. Et là, on peut discuter. Alors, je commence à discuter avec elle. Elle se sent un petit peu plus à l'aise déjà avec moi. Et à force de parler avec elle, je me rendais compte que c'était très important pour elle ce tatouage. Je sentais qu'elle avait besoin de dire quelque chose. Mais c'était quelqu'un d'assez refermé sur elle-même. Petit à petit, elle a commencé à parler. Je disais, mais c'est quand même une assez grand tatou pour un premier tatouage. Est-ce que tu peux me dire un petit peu pourquoi tu fais ce tatou? Et là, elle commence à me raconter ce qui lui est passé quand elle était petite. Quelqu'un lui avait violé. Ça s'était passé plusieurs fois. Et elle avait besoin de faire quelque chose et de s'exprimer. Faire de son corps quelque chose qui lui plaisait. Elle m'a dit, écoute, j'ai besoin d'une armure, quelque chose pour me protéger, mais en même temps, je veux pouvoir regarder mon corps et me sentir belle. Et ce tatou, pour elle, ça a réalisé les deux choses. Elle se sentait belle et elle se retrouve avec son armure. J'avais l'impression qu'elle se sentait pas très bien dans sa peau. Et ce tatouage lui a aidé à réapproprier et à prendre le contrôle sur elle-même. On a fait 3 séances, on a dû se voir 3 fois pour finir ce tatou. Chaque fois qu'on se voit, c'est un peu plus simple. Et à la fin, elle a regardé dans le miroir, elle a une très grande sourire. Et quand elle se regarde, elle voit des fleurs, elle voit aussi l'effort qu'elle a fait pour y arriver jusqu'au bout, pour traverser ces 6 heures de tatou. Alors, je l'ai que revue une fois qu'elle est repassée avec son copain. Elle avait l'air plein de sourires, on a fait des photos et j'aime bien penser que peut-être ça lui a un petit peu aidé à aller un peu plus loin. C'est pas comme ça pour tous les clients, mais avec cette cliente, je sentais qu'elle réussissait à traverser quelque chose de lourd et ça lui aidait à devenir quelqu'un de plus fort.
Ça faisait 1 an que je travaillais dans cette boutique à Paris et une cliente est venue demander un projet pour cacher une cicatrice qui la gênait énormément. Quand je l'ai rencontrée, c'était quelqu'un d'un peu introverti, mais j'ai senti aussi qu'elle était vraiment désireuse de faire quelque chose pour cette cicatrice parce que c'était une cicatrice due à un cancer du sein. Mais c'était son choix, en fait, d'avoir recours à l'ablation du sein, quoi. Elle voulait pas avoir une prothèse ou quoi que ce soit. Le premier rendez-vous, on n'a pas forcément eu le temps de beaucoup parler de ça. Je lui ai donné un deuxième rendez-vous, qui est un rendez-vous des seins. Ça s'est passé un ou deux mois plus tard. Et là, je commence à lui poser donc des questions. Pourquoi elle veut le faire? Quelle est sa démarche? Du coup, elle m'explique donc un peu son histoire. Hein, et je lui demande de me montrer la cicatrice. Elle avait une cicatrice qui n'était pas trop boursouflée, qui n'était vraiment pas si compliquée en fait à camoufler, qui prenait quand même des côtes au milieu du plexus, quoi. J'ai tout de suite vu que je pouvais faire quelque chose. Et donc, quand on a parlé de son projet, elle dégageait vraiment une force que j'ai beaucoup admirée. Et surtout, j'ai eu très envie de pouvoir l'aider et de camoufler cette cicatrice. Donc elle savait déjà ce qu'elle voulait. Et j'ai trouvé que l'idée était géniale. Et j'ai tout de suite été inspirée. Comme la cicatrice n'était pas épaisse, on a tout de suite pu élaborer un motif qui passait au-dessus et un motif en dessous, intégrer du coup la cicatrice dans le motif et faire en sorte que le dessin soit vraiment pétant pour attirer l'œil en fait ailleurs. Pour qu'elle surtout, quand elle se voit dans le miroir, puisse voir en premier lieu le dessin et plus sa cicatrice. Donc on se retrouve face à face. Je lui propose de lui dessiner le motif sur le corps. Je lui dessine au feutre ce que j'ai en tête, avec ses idées à elle, pour qu'elle puisse vraiment visualiser ce que ça fera quand elle sera tatouée. Ça prend une dizaine de minutes, 10 minutes, quelque chose comme ça. Et à la fin, je lui propose d'aller visualiser dans le miroir. Elle y va difficilement. Je sens de l'émotion et il y a un silence. Alors je me demande peut-être qu'elle n'aime pas le dessin, elle reste silencieuse. Je lui pose des questions, je lui demande si elle aime, s'il y a quelque chose qu'il faut que je change, si c'est pas ce qu'elle attendait. Et en fait, avec beaucoup d'émotion, elle m'explique que c'est la première fois qu'elle se retrouve face à un miroir depuis l'opération. Je me dis, vraiment, ce tatou, il va servir à quelqu'un. Donc, on prend rendez-vous pour la vraie séance tatou. Et je lui dis de prendre son temps, de bien réfléchir. Et que si jamais il y a la moindre hésitation, qu'elle n'hésite pas à me rappeler. Et puis qu'on puisse en reparler si jamais il faut. Parce que c'est un projet à pas du tout prendre à la légère. Elle a déjà une cicatrice qu'elle n'aime pas. Il ne faut pas que moi, je rajoute un truc qu'elle ne va pas aimer. Alors, le jour du rendez-vous, elle est revenue très impatiente et surtout, elle n'a pas démordu à l'idée de se faire tatouer. J'avais préparé un dessin propre. Je lui pose le dessin sur la peau. Elle reprend le temps de regarder si ça lui convient. Et donc, quand elle me donne le feu vert, on commence à tatouer. Pendant la séance tatou, il y avait de l'émotion. En fait, elle me rendait l'impression que je lui faisais quelque chose de bien pour elle, quoi. J'ai vraiment eu l'impression de servir à quelque chose. Et ça a duré 2 heures et elle n'a pas bronché, elle n'a pas bougé. Elle a vraiment vécu son tatou avec force et calme. On termine le tatou, et puis bah c'est le moment qu'on préfère aussi en tant que tatoueur, la réaction du client face au tatou. Et je lui dis d'aller voir devant le miroir et de voir son nouveau corps. Et là, je vois vraiment un super beau sourire. Son sourire expliquait tout, quoi. Elle était vraiment contente et ça se voyait. Même l'ambiance et l'émotion qu'il y avait dans la salle au moment quand on a terminé le tatou, c'était vraiment... Comme un soulagement, quoi. De par sa personne, qui est une personne vraiment très belle et qui dégage vraiment quelque chose, moi, qui m'a touchée, quelque part, ça m'a touchée d'autant plus quand, à la fin, elle me montre qu'elle est contente. quelques mois après, elle est revenue parce qu'on demande en fait à voir le tatou après cicatrisation. Et elle est revenue super radieuse. Et puis surtout, elle m'a exprimé cette fois-ci avec des mots à quel point elle était contente et à quel point elle le vivait super bien. Elle m'expliquait que pendant ses vacances, elle s'était sentie super à l'aise en maillot de bain, qu'elle avait vraiment, grâce à ce tatouage, qu'elle s'était réapproprié son corps. Et donc, elle m'explique tout, quoi. J'aurais pu me mettre en topless. J'ai trouvé ça génial, quoi. Grâce au tatouage, en fait, ça, elle a retrouvé vraiment sa féminité.
Je m'appelle Raphaël et je tatoue depuis 6 ans et uniquement sans machine, de manière traditionnelle, juste avec l'aiguille point par point à la main. En 2018, j'ai été invitée tout le mois d'avril à venir tatouer chez la Razouk Tattoo Family à Jérusalem, qui est une famille qui tatoue depuis 700 ans, de père en fils. Et donc Wassim, qui est le tatoueur d'aujourd'hui, il m'a tatoué en fait, de petits tatous, et c'est comme ça qu'il m'a proposé de venir. Et donc Wassim m'a invité pendant un mois à venir l'aider à tatouer les pèlerins, parce qu'il y a un énorme afflux de pèlerins à Jérusalem à Pâques. Et c'est une grande tradition chez les chrétiens, surtout les chrétiens d'Orient, qui veulent marquer leur pèlerinage par une croix ou un motif religieux. Et il y a des gens qui viennent, ils sont déjà venus, ils ont la croix sur l'avant-bras en général, ils ont l'année. Par exemple, moi j'ai vu des gens, c'était 1967. Et petit à petit, à chaque fois qu'ils reviennent, il y a les années qui s'alignent sur leurs bras. Et c'est assez drôle même esthétiquement, parce qu'on voit que ça a été fait il y a longtemps. Du coup, le tatouage, il a bavé, il est un peu bleu, mais c'est beau parce qu'on sent toute l'histoire et on voit toute cette évolution-là sur le bras. C'était très émouvant, je trouve, à voir. Cette croix, ça vient de la communauté copte en Égypte, qui a été très opprimée et marginalisée dans les premiers siècles après Jésus-Christ. L'Empire romain à l'époque les a marqués d'une croix, la croix copte qui est carrée, et ils ont voulu se réapproprier ce signe en décidant que c'était un signe d'appartenance, en le revendiquant et en se marquant eux-mêmes sur le poignet droit par cette croix. Et petit à petit, ils ont migré en Terre Sainte à Jérusalem. Cette famille s'est installée et depuis, ils tatouent de père en fils à Jérusalem. Là, c'est la première génération où il y a vraiment un tattoo shop, mais avant, ils étaient devant le Saint-Sépulcre, dans la rue, et on voit des photos dans la boutique avec le grand-père, l'arrière-grand-père qui tatouaient de manière traditionnelle encore à la main. Et ça fait deux générations qu'ils tatouent avec une machine à tatouer. Ça doit faire 20 mètres carrés accueil et salle de tatouage compris. Donc c'est tout petit, c'est voûté, c'est un immeuble super ancien qui est dans le vieux Jérusalem. Donc là où il y a tous les lieux sacrés, donc c'est très chargé en soi. C'est un afflux de gens, mais continuel. Et parfois il y a un groupe de 30 personnes qui arrivent. Et il faut les tatouer et on a 2 heures. Pendant un mois, j'ai tatoué beaucoup de croix, alors différents types de croix, ou des motifs religieux, quoi. C'est des motifs qui ont été dessinés il y a plusieurs siècles et qui ont été gravés dans des petits blocs de bois d'olivier. Et du coup, on les utilise comme des tampons. Donc ça, c'est assez fort de tatouer comme ça, c'est que tu prends un tampon qui a été fait il y a 4-5 siècles et hop, tu fais vraiment le tampon sur la personne. Ça peut être la crucifixion. Et les femmes se font beaucoup tatouer de vierges à l'enfant. Voilà. Les gens se font marquer un motif religieux et s'inscrivent dans une foi, dans un pèlerinage, etc. Alors que, en Europe, je parle de là où je tatoue, ça reste un rituel, mais c'est personnel. Les gens, ils font en fonction d'événements dans leur vie, de leur tempérament, de symboles très personnels qu'ils veulent se faire ancrer et incarner. On parle de l'intimité des gens, alors que là, on parle pas de ça du tout. D'ailleurs, la plupart des pèlerins ne parlent pas. Il n'y a pas d'histoire personnelle de raconter. Les gens viennent se faire tatouer une croix, point. Ils viennent pas voir tel tatoueur, parce qu'il va avoir une sensibilité, un œil. Non, c'est le motif qui n'a pas bougé depuis des siècles que tu te fais tatouer. C'est-à-dire que là, je suis vraiment mis au service d'une tradition. Donc il y avait quelque chose de fort où tu te sens un peu rentré dans l'histoire, quelque part. Wassim invite tous les ans un tatoueur, et jusqu'ici il avait toujours invité un tatoueur. Donc finalement je me rends compte que je suis la première femme à avoir perpétué cette tradition de tatouage de pèlerinage chrétien. En fait, Wassim est très connu, cette famille est très connue. Les gens qui sont pèlerins et qui sont croyants se sont renseignés, ont parfois pris rendez-vous à l'avance, donc ils le connaissent et ils veulent absolument que ça soit lui. Et après, quand on leur dit oui, il y a aussi quelqu'un d'autre qui tatoue, c'est clair qu'il y a certaines personnes, c'était hors sujet, complètement. Ils me regardaient même pas d'ailleurs. Ça, c'était très violent. Ils ne me regardaient même pas. Alors, j'ai tatoué une bonne sœur, j'ai jamais tatoué de prêtre. J'imagine que c'était trop. C'était pas possible qu'une femme ait tatoué. Mais c'est pas juste une femme, c'est une femme blanche d'Europe aussi. Wassim ne s'était jamais fait tatouer cette fameuse croix copte. Et à un moment, donc le temps qu'on se rencontre, qu'on travaille ensemble, ça m'a beaucoup touchée. À un moment, il m'a demandé de lui tatouer cette fameuse croix copte au poignet droit, exactement l'endroit traditionnel qui est visible quand on serre la main. Ça faisait des années qu'il la voulait, et voilà, là il a eu le déclic et il me l'a demandé à moi, ce qui m'a énormément touchée. J'étais très heureuse de pouvoir lui tatouer ça, parce que bah, ça marquait la rencontre humaine entre nous aussi, et je pense que ouais, c'est du coup un de mes plus beaux tatous lors de cette expérience.
C'était Des histoires de tatouage, un reportage de Fabienne Lhomonier réalisé par Anne-Laure Chanel. Merci à Lydie, à Marc, à Sacha et à Raphaël. C'est Jeanne Delecroix, l'attaché de production des Pieds sur Terre, et Nino Lima, notre stagiaire.
Ce nightclub à l'admission privée entasse une foule électrisée par le tempo possédé. Piste verglacée, da-da-da-da-o. Par le tempo possédé, m'a suscité danser. Oh, tabou, pas besoin de bagou. Son épaule est tatou, tatou, tout tatou. Là sur sa peau gravée, à l'encre bleue dessinée, da-da-da-da-o. Là sur sa peau gravée, un tatou bleuté. nightclub où le jazz est prisé. Rictus crispé pour qui se fait jeter. Vous avez sollicité mes bas instincts suscités. Balapapao. Vous m'avez sollicité, je pouvais pas lutter. Ce mot est à vous. Ton épaule est à tout. À tout. Tout à moi. Je ne sais ce qui se passa. Suzy dans le vice-versa. Balapapa. Vice et vice-versa. Quand Suzy céda. Danser.